Ésaïe chapitre 25, à partir du verset 6 à 10, pour notre méditation de ce dimanche. Ésaïe chapitre 25, verset 6 à 10, le festin pour tous les peuples, au nom de Jésus. Sur le mont Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse, arrosé de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins fins, bien clarifiés. C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les peuples, le rideau de tristesse étendu sur toutes les nations. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du pays, il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a promis le Seigneur. On dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. La main favorable du Seigneur est bien posée sur cette montagne. Amen. Seigneur des armées, montagne sainte, banquet de mets succulents, plein de moelle, devin vieux, voile, couverture qui couvre les nations. Voilà toutes les expressions qui donnent une couleur à ce texte. Et la couverture qui couvre les nations, ici, dans d'autres traductions, c'est la couverture, ici, est traduite par le linceul, c'est-à-dire le deuil. Tous ces mots que je viens d'énumérer nous montrent que ce texte est chargé d'images et de métaphores. Et donc, c'est un texte qui n'est pas facile à comprendre et à interpréter, car il faudrait tenir compte de toutes ces illustrations qui servent à donner des pistes, des indices, pour nous orienter vers une ou plusieurs réflexions. Tout d'abord, à première vue, une question logique me vient à l'esprit. Comment comprendre le verset 6 qui nous dit que le Seigneur des armées fera un grand banquet? Comment comprendre cela? Normalement, un chef des armées n'a pas sa place dans un banquet. Un chef des armées, il devrait être sur un champ de bataille. Et ici, c'est le chef des armées qui invite au banquet. On ne devrait pas le voir autour d'une table bien garnie, préparant à manger et à inviter ses convives. Ce qui signifie, il nous faut alors décrire ce qui est ce seigneur des armées. Qui est-il? Pour faire court, cette appellation « Seigneur des armées » ou « Yahvé » même est un titre qu'on donnait à Dieu, l'Éternel. Et donc le Seigneur des armées n'est autre que Yahvé, le tétragramme YHWH. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Yahweh. Alors je vais vous donner une petite initiation hébraïque sémantique sur ce mot Yahweh pour savoir un peu plus ce qu'il en est. Selon Thomas Romer, un de mes professeurs à l'Université de Lausanne et aussi au Collège de France, selon lui, les quatre lettres du tétragramme YHWH Yahweh a une racine du sud des régions sémitiques. Et la racine, c'est le Yah, le Y et le H. Le Yah qui peut signifier comme désirer, ou tomber, ou souffler. Et rien que chacun de ces verbes nous donne une description de ce qu'est Yahvé. On le prononce, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire Yahvé, n'est-ce pas? On sait que c'est l'Éternel. Mais est-ce que nous savons qui est ce Yahvé? Alors c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir ce tétragramme. Si nous prenons le premier verbe, désirer, nous pouvons faire le lien avec le commandement qui résume toute la loi. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Donc le rapport que nous devrions avoir avec ce Dieu-là, avant d'établir un rapport d'obéissance, c'est un lien d'amour et je vais même dire de passion, désiré. C'est plus épais comme description. L'amour de son peuple est énorme, c'est pour cela qu'il nous demande en retour un amour exclusif, parce qu'il a promis de prendre en charge son peuple et tous ses besoins. Cela nous renvoie à ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 45, verset 11, où il est dit « Ainsi parle Yahvé, le Saint d'Israël, celui qui le façonne, veut-on m'interroger sur ce qui est à venir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Ce sont mes propres mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui commande toute son armée. » Là, vous entendez maintenant toute son armée, on a dit « Seigneur des armées ». Donc, avec cette référence biblique, nous pouvons déjà commencer à comprendre où est-ce qu'il veut en venir avec le titre « Seigneur des armées ». Le Seigneur des armées n'est autre que celui qui a créé le ciel et la terre, d'après ce texte. Et quelle est cette armée? Les étoiles, les planètes, les astres, comme étant sa propre armée. Et vous allez voir que ces choses-là, Dieu les a créées pour être l'armée de Dieu, et Dieu est à la tête de cette armée. Vous croyez que la lune, le soleil et tout ce qui se passe autour de nous ne sont juste là que pour nous servir, bien sûr, mais ils font partie de l'armée de Dieu. Et à travers les différents récits de l'Ancien Testament, nous pouvons constater que Dieu utilisait à chaque fois les éléments naturels pour se manifester. Si Dieu veut parler à l'humanité, il utilise la nature. Dieu parle à travers la nature. Dieu parle à travers les éléments naturels, soit pour punir l'homme, soit pour le protéger dans sa vie. À l'exemple, le feu de Sodome et Gomorre. Dieu a fait tomber le feu sur cette ville, sur cette cité. Et d'après certains spécialistes, des archéologues, il y avait un volcan en éruption qui a détruit toute la ville de Sodome. Oui, Dieu peut utiliser le phénomène naturel comme le volcan pour arriver à ses fins. Le vent qui soufflait pour séparer la mer Rouge, rappelez-vous, Dieu utilise le vent, les quatre éléments, pour ouvrir la mer. Les 10 fléaux d'Égypte, rappelez-vous, la grenouille, le feu, la grêle, Dieu utilise les éléments naturels pour se manifester. À vous de faire maintenant l'application dans nos vies. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, peu importe l'explication, est-ce que le monde sait écouter Dieu quand il parle? Que ce soit la pandémie, que ce soit les catastrophes naturelles, Dieu parle, mais est-ce que l'homme a des oreilles pour entendre? Maintenant, si nous prenons le deuxième verbe, tomber, pour définir le Yah, en continuité avec ce qui a été dit, le terme Yahvé, qui apparaît pour la première fois dans le sud du Levant, c'est le dieu des steppes, est aussi appelé le dieu de l'orage. Dans le sud du Levant, Le Dieu Yahvé, c'était le Dieu de l'orage. Donc, en lien avec le verbe tomber, nous pouvons comprendre maintenant l'histoire du déluge. Dieu qui fait tomber la pluie, soit pour détruire, comme le déluge, soit pour rendre la terre fertile et qui fait produire tous ces mets succulents racontés dans le texte et qui sont annoncés ici. Avec cette description, nous pouvons faire le lien avec la promesse de Yahvé qui s'est manifestée à Moïse et qui a promis à son peuple de le conduire vers la terre promise. Et quelle est la caractéristique de cette terre promise? La terre où ruisselle le lait et le miel. Parallèlement à cette montagne où Dieu va faire un banquet, Dieu va donner tout ce que l'Israël aura besoin. Et enfin, le troisième verbe, souffler, évoque l'Esprit de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, on l'appelle le ruach, le souffle. Le souffle de Dieu, ce souffle qui crée. Exode chapitre 3, verset 14. Mais ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse, je serai qui je serai, celui qui est, celui qui rend possible l'existence. Rappelez-vous la création de l'homme, quand Dieu a façonné Adam. Il n'était qu'un être humain. Si vous lisez bien la Genèse, c'est bien mis en évidence. Quand Dieu l'a façonné avec la boue, il n'était qu'un être humain. Mais quand Dieu lui a donné son souffle, il est devenu un être vivant. Relisez les textes. Ce passage. Donc, il y a des gens qui sont des êtres humains, mais pas des êtres vivants. Parce qu'ils ne sont pas animés par le souffle de Dieu. Des cadavres ambulants dans la ville, dans tout ce pays. Des humains, bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont vivants? C'est pas sûr. Bref, si on fait une synthèse de tout ce qui a été dit en lien avec notre texte, le message du prophète dans Ésaïe redonne un nouvel espoir à Israël, que l'Éternel va déployer toute son armée, c'est-à-dire il va secouer le monde et fera venir des nations païennes qui amèneront leurs richesses pour qu'Israël sera reconstruite. Et c'était le cas, vous savez. Un peu plus loin dans Ésaïe chapitre 60, versets 3 à 4 et verset 5, il est dit, Alors des peuples marcheront vers ta lumière dont tu rayonnes Israël, des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller, car les richesses de la mer arriveront chez toi. Les trésors du monde affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. En d'autres termes, une promesse de reconstruction qui viendrait de l'extérieur. Et c'est ce qui s'est fait en Israël. Le peuple d'Israël n'a même pas dépensé un franc lors de leur retour en Israël. C'est Dieu qui a secoué l'empereur Cyrus. Cyrus, un païen qui a cassé sa tirelire et il a dit à Esdras et Néhémie, allez retourner en Israël, reconstruisez le temple et la ville. Dieu réalise sa promesse. Même situation lors de la sortie d'Égypte. Dieu a secoué l'Égypte avec tous les éléments naturels. Et à la fin, qu'est-ce que disait le pharaon? Va, allez-y, retournez chez vous, en leur donnant toutes les richesses à ce peuple pour revenir dans son pays. Pour nous aujourd'hui, alors, qui écoutons cette prophétie d'Ésaïe, qui, signalons-le, était d'abord destinée pour eux, non pas pour nous en 2020, quel est l'intérêt de lire et de prêcher clair ce texte aujourd'hui? Et comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un message d'espérance pour une reconstruction face à la captivité que subissait le peuple d'Israël. Ce qui est paradoxal, pour atténuer cette douleur d'Israël, Le prophète utilise une histoire de banquet. Cela peut nous sembler ironique face à la situation que ce peuple vivait. Ils étaient en captivité et Dieu promet un banquet. C'est trop comme promesse. C'est difficile à croire. Mais cette métaphore a aussi été utilisée par les grands philosophes comme Platon. Platon, dans son livre « Banquet de Platon », dans ce livre, il parle d'un dialogue qui raconte un repas entre ses amis philosophes qui se réunissaient, quelques philosophes assez connus. Et pendant ce repas, Platon choisit un sujet de conversation pour animer le repas, en abordant la question de l'amour. Je ne dis pas la question d'amour, mais la question de l'amour. C'est deux choses différentes. Chacun faisait son propre discours sur le sujet. D'ailleurs, je vous invite à lire ce livre, c'est magnifique. Il y avait sept discours, mais ce qui intéresse les lecteurs de ce dialogue est celui d'Aristophane et de Socrate, qui, rappelons-le, est le maître de Platon, Socrate. Et donc, dans ce banquet de Platon, ce dernier décrit l'amour. Pour lui, l'amour est le désir. L'amour est le désir, et quand on parle de désir, c'est on exprime une manque. Quand tu désires quelque chose, ça veut dire que tu as une manque. Il explique, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, et ce dont on manque. Voilà pour résumer la vie de Platon. Voilà les objets des désirs, voilà les objets de l'amour. Si tu aimes, c'est parce que tu sens qu'il y a un manque en toi. Quelqu'un qui n'aime pas, c'est quelqu'un qui est autosuffisant. Accepter qu'on aime veut dire qu'on est faible et qu'on a besoin d'être aimé. Et c'est pourquoi le bonheur est si souvent manqué, comme disait le philosophe André Comte-Sponville. L'être humain, lui, toute sa vie, est tout le temps dans une quête sans fin du bonheur qui se résume ainsi. Je n'aime ce que je désire que ce que je n'ai pas. Voilà la vie de l'homme. Je n'aime que ce que je désire que ce que je n'ai pas. Je reprends ici les propos du philosophe Sponville. Et regardez notre vie. Vous savez qu'est-ce que les spécialistes de publicité utilisent? Ils vont tout faire pour creuser vos manques. Et ils vont mettre ça sur votre écran. Tu as besoin de ça, Jean-Luc. Il va tout faire pour te croire qu'il te manque ça. Et toi, sans être conscient, tu es manipulé. On va creuser ton instinct primaire, ton instinct animal, le fait que tu te sentes vide. Et si on traduit le propos de ce philosophe dans le langage biblique, j'ai trouvé l'équivalent dans l'Ecclésiaste que nous venons de lire. Ecclésiaste 1:11. Et moi, je me suis retourné vers toutes les choses que mes mains avaient faites, dit l'Ecclésiaste. Le travail pour lequel j'avais tant peiné, tout n'est que futilité et poursuite du vent. Il n'en résulte aucun avantage sous le soleil, comme disent les jeunes, que du vent. Après avoir tout fait, un constat amer, que du vent. Le grand Steve Jobs, à la fin de sa vie, qui a tout réussi sur le plan professionnel, sur le plan financier, et il a dit « la vie est absurde ». Incroyable, non? Si c'était un pauvre, un homme simple, on peut dire « oui, mais lui, il n'a pas réussi ». Mais à la fin de sa vie, il dit cela. Il a raté l'essentiel. Pourtant, c'est l'homme le plus désiré de tous les hommes pour sa sagesse, pour son intelligence, pour tout ce qu'il sait. Sur cette terre, chers amis, nous ne faisons que courir sans cesse pour remplir un vide qui ne remplira jamais, comme la mer. Toutes les fleuves se déversent dans la mer, mais ça ne se remplit jamais. Mais alors Jésus nous lance le même appel qui a été fait à Ésaïe. Vous le connaissez tous, ce verset si simple, mais que nous oublions. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos, dit l'Éternel. Dieu t'invite à venir à lui, car il est le seul Seigneur des armées, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir sur tous les éléments naturels, que ce soit naturel ou surnaturel, en la personne de Jésus-Christ. Paul l'a martelé, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre. Alors, l'appel est clair ce matin, ne cherche pas à combler ton vide, chers frères et sœurs, là où ce manque sera toujours perpétuel. Ne cherche jamais à combler ton vide là où le manque sera perpétuel. Tant que l'amour de Dieu n'inonde pas ton cœur, tu ne seras jamais rassasié. Mais quand l'amour de Dieu sera omniprésent chez toi, même un petit bout de pain, dit le proverbe, te sera suffisant. Mais si tu es loin de l'Éternel, on te donnera tout, mais tu diras toujours, ça ne suffira jamais. Que le Seigneur te donne la sagesse et l'orientation dans ta vie. Amen.